Le journal avec Chris-Wa Jordan Badingbe. Jordan, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane Niaboudé, bonjour à tous. Les détonations d'armes sont entendues hier nuit à Bria dans la Haute-Coteau. Selon des sources locales, il s'agit de répliques des éléments russes contre une attaque qui a visé leur base. Deuxième jour aujourd'hui de la grève du personnel soignant. Malgré l'appel à la reprise lancé hier par le ministre de la Santé, les activités restent paralysées dans les hôpitaux. De son côté, le cardinal Dieudonné Zapalainga appelle au dialogue pour la résolution de cette crise. Les habitants de Beloko, localité frontalière avec le Cameroun, s'inquiètent des dispositifs sécuritaires mis en place dans cette zone stratégique. Vous suivrez leurs avis dans ce journal. Football, les fauves des moins de 20 ans continuent leur préparation pour la CAN prévue sûrement en Égypte. Ils livrent un deuxième match amical ce soir contre Espoir de Raja de Casablanca du Maroc.
Ouvrons ce journal à Bria dans la Haute-Coteau où le calme est revenu ce matin après une nuit d'inquiétude.
Oui, inquiétude à cause des crépitements d'armes entendus entre 20h et 21h. Selon le préfet de la Haute-Coteau, Thierry Evariste Biguinindi, il s'agit d'une réplique des forces russes basées à Bria. Ses alliés des FACA auraient essuyé des tirs des hommes armés qui ont tenté d'attaquer leur position. Thierry Evariste Biguinindi, joint ce matin par Parfait Teddy Comessé.
Bon, effectivement, c'est aux environs de 21h que la population de Bria a été secouée par ces coups de feu qui se situent juste à la base des alliés russes. Donc, j'ai appelé l'interprète russe qui m'a dit que effectivement de l'autre côté, comme la base est située juste au bord de la Coteau, de l'autre côté là-bas, ils ont entendu des coups de feu vers eux. Quoi. C'est pourquoi ils ont répliqué en faisant des tirs de dissuasion. Et donc, ces partisans ont pris position tout le long du fleuve. Bon, c'est une version que j'ai reçue de la part de la population qu'il y a eu le feu de brousse de l'autre côté là-bas. Et comme les bambous de Chine, quand on brûle ça, ça fait des tonations comme des tirs d'armes. Et donc, c'est ça qui a fait que les Russes ont pensé que c'est une attaque. C'est ce que la population a dit. Bon, ben, c'est ici le professionnel, certainement qu'ils ont écouté quelque chose pour réagir. Pour l'instant, la ville est calme, la population est en train de marquer à ses occasions. Les enfants sont à l'école, donc les réfugiés ont repris. Il n'y a pas de problème.
On rappelle, fin 2022, certaines localités environnantes de Bria ont été théâtre d'attaques de présumés rebelles de la coalition des patriotes pour le changement CPC. C'est l'exemple du village Ngouaboudou, situé à 45 km de Bria, qui a été attaqué le 17 novembre dernier, faisant un mort et plusieurs blessés.
Le personnel de santé poursuit la grève lancée depuis hier par le syndicat du personnel soignant en Centrafrique.
Oui, Verdiane, dans les hôpitaux, il n'y a que le service minimum qui travaille. Un coup dur pour les parents et les malades. On en parle avec vous, François Kossimé Palato.
L'ambiance dans les hôpitaux de Bangui est toujours timide. Malgré la mise en place d'un service minimum, les parents des enfants malades au complexe pédiatrique s'inquiètent. Aubin Ibengé.
On était trop inquiets de la situation d'hier parce que la santé est très importante. Aujourd'hui, il y a un peu d'amélioration. Certains médecins sont venus, mais sans leur tenue de travail. Ils consultent les enfants et font des prélèvements.
Au chevet de sa fille souffrante, Christelle appelle le gouvernement à l'écoute des grévistes.
Je suis vraiment écœurée de cette situation. Les médecins n'ont pas travaillé depuis hier, raison pour laquelle je demande au gouvernement de discuter avec le personnel soignant afin d'assister nos enfants ici au complexe pédiatrique.
Les membres du syndicat du personnel soignant en Centrafrique pensent que jusqu'ici, la grève est observée par l'ensemble du personnel soignant. Toutefois, ils déplorent le comportement de certaines autorités judiciaires qui ont tenté de les arrêter ce matin. Sandra Biani, secrétaire exécutive du dit syndicat.
Le personnel est resté à la maison. Il y a juste le service minimum que nous avons mis en place depuis mercredi matin. Donc c'est pour ça qu'on sillonne dans les hôpitaux pour vérifier si les gens ont effectivement travaillé comme on a prévu. Au moment où j'arrivais à l'hôpital de l'Amitié pour parler avec le personnel qui était dans le service minimum, à ma grande surprise, le chargé de mission en matière juridique, il est venu nous agresser physiquement et il a dit que de toutes les façons, tout de suite je vais appeler la police, on va vous arrêter. Donc j'ai fini de sillonner. S'ils veulent nous arrêter, ils n'ont qu'à venir nous chercher à la bourse de travail pour nous arrêter.
Cette grève lancée depuis hier prendra fin ce vendredi. En plus des primes Covid-19 de 2021 et 2022, le syndicat du personnel soignant réclame du gouvernement un statut particulier du personnel de santé, les états généraux du ministère de la Santé et l'intégration massive des jeunes diplômés au secteur de la santé.
Et justement à propos de ce mouvement de grève du syndicat du personnel de santé, le cardinal Dieudonné Zapalainga appelle au dialogue.
Le prélat s'indigne de la situation qui prévaut actuellement dans les hôpitaux. Pour lui, seul le dialogue peut décompter la situation. Cardinal Dieudonné Zapalainga au micro de Bienvenue Bello.
Est-ce que les primes de Covid ont été données? Et pourquoi est-ce qu'on ne les a pas versées? Pourquoi on ne recrute pas? Parfois, les gens sont dans les a priori, ne connaissent pas les réalités de la maison. Et que le chef de la maison, il a l'obligation de rassembler ses enfants, de leur parler, expliquer la situation. Les enfants ne sont pas dupes, ils sont intelligents, ils sauront faire la part des choses. Mais quand on ne les associe pas au processus des décisions et autres, ils se sentent marginalisés, frustrés, eh bien, ils peuvent arriver à ce qu'on appelle des grèves. Et je pense qu'il est temps de renouer avec le dialogue social. Il est temps de poser les vraies questions et les ressources dont on dispose, c'est pour répartir équitablement et justement pour que les autres ne puissent pas dire « Vous, vous êtes en train de bénéficier et moi, je souffre. » Non, chercher des compromis, pas des compromissions pour sortir de cette crise-là. Tous ceux qui sont à la tête de ces syndicats-là, ils ne sont pas tous des ignares. C'est des gens intellectuels qui comprennent les choses. Ils seront aussi entrés dans ce dialogue social pour apporter aussi leur contribution pour le changement ici en République centrafricaine.
Effectivement, hier, le ministre de la Santé a appelé les grévistes à la raison et à reprendre le travail. Je vous invite encore à écouter Dr Pierre Sompsi.
Je voudrais féliciter l'ensemble du personnel de santé qui n'a ménagé aucun effort pour être à leur poste de travail et fournir les soins nécessaires aux malades. Je les encourage à poursuivre cet effort louable pour le bien-être de la population. J'exhorte ceux qui ont voulu manifester leur mécontentement à revenir à la raison et à continuer à faire confiance au gouvernement qui ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de travail des professionnels de santé en dépit des conditions socio-économiques difficiles. Je demande au groupe de travail mis en place constitué des membres de l'Amicale des médecins, du Conseil de l'Ordre des médecins ainsi que les représentants du personnel de santé d'accélérer le processus entamé en vue de proposer des solutions adaptées aux besoins du personnel de santé.
Jordan, le journal se poursuit sur les 100.9 FM. Les habitants de Cantonné à la frontière avec le Cameroun critiquent les dispositifs sécuritaires des forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine déployées dans la région.
Selon une partie de la population locale, les mesures sécuritaires à Cantonné et à Beloko ne permettent pas de faire face aux éventualités. L'état-major des armées promet déjà une solution après une descente sur le terrain. Les Centrafricains attendent plus de mesures pour garantir l'intégrité territoriale menacée ces derniers temps. Igor Deskin-Sinapaï.
Cette plainte refait surface après l'assaut des hommes armés contre les positions des FAKA et leurs alliés à Beloko le 21 janvier dernier. Selon des habitants, l'effectif des militaires, policiers et gendarmes déployés dans la localité est insuffisant pour défendre la patrie. Ils dénoncent le fait que la brigade de gendarmerie et le commissariat de police de Cantonné ne sont pas à la hauteur de leur mission dans cette zone stratégique. Saliou Amadou, alias Aladji Dangongo, ne désarme pas.
Notre frontière reste encore poreuse. On doit déployer l'armée nationale dans la région. Si on compte bien nos soldats dans la localité, ils sont moins de 10 éléments. Quand nous déploie plus de 300, voire 400 militaires.
Emmanuel Wasseri, vice-président des chargeurs de Cantonné, estime pour sa part que le gouvernement minimise encore la question sécuritaire à la frontière.
Voilà, gouvernement.
Nous ne comprenons pas si notre gouvernement prend au sérieux l'enjeu de notre frontière. Du côté Cameroun, il dispose d'un important arsenal avec plus de 2000 soldats. Mais chez nous, nous avons moins de 500 militaires.
Les Centrafricains de cette région attendent du gouvernement plus de mesures sécuritaires pour garantir l'intégrité territoriale. Mamadou Balengue dit Maimokola, habitant de Cantonné.
Nous subissons trop de maltraitance ici. Il faudrait que le gouvernement mette un accent particulier sur cette question sécuritaire. C'est notre grande préoccupation. Ici, à moindre chose, nous sommes en débandade. Qu'on déploie davantage des militaires dans la région.
Le gouvernement a compris l'ampleur du danger après l'attaque du poste des douanes de Beloko en janvier dernier. Zéphiré Mamadou, chef d'état-major des armées, a renforcé le contingent des forces armées centrafricaines basées dans la localité.
On a déjà renforcé nos hommes, notre position des forces de défense et de sécurité également de la MINUSCA et on a déjà tenu à notre arrivée une réunion avec nos entités militaires. Alors donc les dispositions militaires, c'est pas tout déclaré ici. Il faut que dorénavant on doit travailler main dans la main. Faut pas qu'il y ait des ruptures.
Beloko et Cantonné, deux villes centrafricaines partageant la frontière avec la ville de Garouamboulé côté Cameroun, manquent d'infrastructures pour fournir les services nécessaires à la population. La situation sécuritaire reste volatile dans la localité à cause des faibles capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité basées dans la région. Igor Djeskin-Senapay, de retour tour de Beloko, Radio Ndekeluka.
Et puis le gouvernement, à travers le département des finances, veut mettre les entreprises et ONG en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi des finances 2023.
Des échanges ont eu lieu hier entre les différentes parties pour les autorités centrafricaines. Cette rencontre a pour objectif d'élargir la mobilisation des recettes financières et de lutter contre la fraude fiscale. Une rencontre organisée par LJD Group, un cabinet spécialisé dans les finances en Centrafrique. Le point avec vous, Vianney Ngasso.
Pour faire face à la tension des trésoreries et au manque d'appui budgétaire, le gouvernement centrafricain se tourne vers les entreprises et autres acteurs économiques pour renflouer la caisse de l'État. Ceci passe par la sensibilisation des directeurs financiers et comptables sur les nouvelles dispositions du budget. Roger Nzumbo, inspecteur des finances.
La loi de finances de 2023 a la particularité de prendre en compte les prestations de services qui n'ont pas existé dans les lois de finances antérieures.
Si les régies financières souhaitent contrer la fraude et l'évasion fiscale, elles s'appuient sur ces entreprises pour avoir le contrôle sur le secteur informel qui leur échappe.
Nous sommes en train de mettre à profit cette occasion pour sensibiliser ces opérateurs économiques sur la nécessité pour eux de se conformer aux dispositions des textes en vigueur en général, et particulièrement à celle de la loi de finances, parce que nous comptons beaucoup plus sur les recettes domestiques, c'est-à-dire intérieures, pour permettre au gouvernement de disposer des ressources dont il a besoin afin de faire face à ses charges régaliennes.
Pour Christian Kamara, directeur général de LJD Group, il s'agit d'une action conjointe qui obligera les acteurs du secteur informel à se conformer à la loi.
C'est une action conjointe entre l'administration fiscale et les entreprises qui sont déjà en règle. Et les entreprises qui sont déjà dans le secteur formel doivent obliger ceux-là qui sont dans le secteur informel de sortir de leur terrasse afin de pouvoir se formaliser. Pourquoi je le dis ? Parce que c'est en général ceux du secteur informel qui recherchent beaucoup plus les prestations auprès des entreprises formelles. Et donc, si vous avez besoin de ma prestation ou de mes prestations, j'ai cette ascendance sur vous de pouvoir vous obliger à vous mettre en règle.
Selon la loi des finances 2023, en plus des achats, 3% seront prélevés aux entreprises sur les frais de prestation de services avec d'autres fournisseurs publics ou privés.
Bienvenue Béloël pour la page des sports. Bienvenue, bonjour.
Bonjour Chris Roy-Jordan, bonjour à tous.
Basketball, les matchs des quarts de finale de la Coupe de pré-saison démarrent aujourd'hui.
Cet après-midi à 17h au Palais des Sports, Assopété affronte Tondema. Demain 18h, BAC jouera contre Zarasclo.
Handball en senior masculin, la deuxième demi-finale de la Coupe de fin du mandat de l'actuel bureau est prévue cet après-midi sur le terrain de l'INJS à Bangui.
À 15h, Academia joue contre Padre Pio. Hier, AS Saint-Sauveur a battu Ascobra par forfait et s'est qualifié pour la finale. La finale est prévue ce samedi 11 février sur le terrain de l'INGS.
Football, les Fofs des moins de 20 ans jouent cet après-midi leur deuxième match amical contre Espoir de Raja de Casablanca du Maroc.
Le match est prévu à 16h au stade Larbi Zaoudji de Mohamedia à Casablanca. Les Fofs vont affronter les U23 de Raja. Quelle stratégie pour amorcer ce deuxième match amical? La réponse avec Sébastien Gâteau, entraîneur des Fofs U20, joint depuis Casablanca par Claire Assambadinga.
Par rapport au nombre des joueurs, il était question de juger le niveau. On va prendre le match comme si c'était un match officiel. On va mettre les gens que nous pouvons les mettre. Parce que déjà, on joue avec un premier groupe. On connaît déjà comment ça s'est passé. On va mettre encore un deuxième groupe. Et puis la synthèse de ces deux matchs-là va nous permettre de mettre une équipe probable pour le troisième match. Nous avons préparé match par match. C'est un match qui va se jouer là-bas en Égypte. Donc il n'est pas question de baisser les bras, mais de continuer de le faire. Si la tactique, l'organisation collective, le bloc défensif au niveau du milieu de terrain et au niveau de l'attaque, est-ce que ça circule bien? Ça va nous permettre de voir comment ça va se passer. Tout le monde va bien, on est déterminé pour essayer de tout faire pour qu'on puisse ramener au moins un titre par rapport à ce tournoi de qualification pour la Coupe du Monde en Égypte. Raja de Casablanca, c'est une équipe aussi solide. On va essayer de se battre pour essayer de confirmer, mais c'est la façon dont on va mettre en place la tactique de groupe pour le faire comprendre que nous sommes prêts pour le tournoi d'Égypte.
Au premier match lundi, les Fauves de Bazoubangui ont battu Sporting Club Chebab Mohamedia du Maroc 3-1.
Football à l'international, bienvenue, le Real Madrid qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des clubs qui se déroule en Tunisie.
Les Espagnols ont battu hier les Égyptiens de Al Ahly 4-1. Le Real Madrid affrontera en finale ce samedi le club saoudien de Al Hilal qui avait éliminé mardi les Brésiliens de Flamengo 3-2.
Toujours football à l'international, Marseille élimine le PSG et file en quart de finale de la Coupe de France.
Les Marseillais ont battu les Parisiens 2-1 dans un stade Vélodrome plein à craquer avec 65 000 spectateurs. Un classico remporté par les Olympiens devant leurs éternels rivaux, les Parisiens. Dans les autres matchs, Lyon s'est qualifié en battant Lille au tir au but 4-2. Sur le terrain, le score était de 2-2. Toulouse est aussi passé devant Reims 3-1. Rodez a éliminé AJ Auxerre 3-2.
Fin de cette édition sur Radio Ndekeluka, merci de l'avoir suivi. Mais ne quittez pas, la version Sango, c'est tout de suite.